Et c'est un pachyderme qui occupe une place à part dans l'imaginaire des hommes et qui de tout temps a alimenté les légendes, inspiré l'art des cavernes, mobilisé les expéditions scientifiques. La tête au carré part donc cet après-midi sur les traces des mammouths pour une histoire qui commence il y a plus de 60 millions d'années avec les tout premiers proboscidiens. 3500 ans avant Jésus-Christ disparaissaient les derniers mammouths. Comment les hommes ont-ils vécu auprès de ces animaux? Dans quelles conditions se sont-ils éteints? Et serait-il possible aujourd'hui de les cloner? Toutes ces questions avec vos messages à la préhistorienne Marilène Patou-Matisse. Elle est mon invitée dans un instant. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une histoire assez incroyable avec un homme qui est à la fois l'oncle et le père biologique de son fils. Comment est-ce possible? Vous allez tout comprendre. On vous en parle dans quelques minutes. C'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de l'émission avec un dossier préparé avec Antoine Bonvoisin.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
C'est vrai qu'il y a du poil chez le mammouth, hein, Marilène Patou-Matisse. Mais pas seulement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Des histoires de mammouth dans le dossier de la tête au carré. Vous publiez un livre aux éditions Fayard. Quel est le lien de parenté entre les mammouths et les éléphants? Est-ce que les mammouths sont les ancêtres des éléphants actuels ou pas tout à fait?
Non, pas tout à fait. Ouais. Ils ont un ancêtre commun. Voilà, c'est-à-dire que à peu près vers 7 millions d'années, il y a eu une séparation des trois grands genres, hein, le genre Mammuthus, donc notre fameux mammouth, le genre Elephas, donc l'éléphant d'Inde par exemple, et l'Oxodonta, qui est l'éléphant d'Afrique. Donc ils se sont séparés. Donc un ancêtre commun.
Et on a longtemps pris le mammouth pour un éléphant.
Hein, voilà, avec des
dans
poils.
Dans les discussions, hein, avec beaucoup de poils. Des histoires de mammouth, vous en racontez très nombreuses dans cet ouvrage, donc depuis l'apparition des tout premiers jusqu'à leur extinction. Et on se retrouve dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs. Et puis un mot également sur une erreur qui a été dite hier dans l'émission sur la vaccination. Nous parlions d'Edouard Jenner qui a élaboré la première méthode efficace de lutte contre la variole. Et à deux reprises, j'ai indiqué que ces travaux avaient eu lieu en 1876 alors que ces recherches se sont passées un siècle plus tôt, en 1776. L'erreur est corrigée, mea culpa. Et une histoire étonnante aujourd'hui à la une de la science, celle d'un couple américain dont l'enfant s'est avéré être génétiquement différent du père. Cette histoire a été racontée il y a quelques jours sur le blog Passeur de Science. Il a mis en échec tous les tests de paternité, mais a rapidement été élucidé par les généticiens. Et Frédéric Flamand, vous êtes là pour nous éclairer. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes biologiste à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quand même un petit peu cette histoire surprenante, en tout cas nous la remettre dans son contexte, histoire qui a été présentée ce mois-ci au Symposium international sur l'identification humaine. Et c'est un cas quand même assez rare, je crois, qui a été dévoilé. Hein.
Ah, c'est même un cas unique, hein. C'est quelque chose de très étonnant. C'est un couple d'Américains qui étaient de groupe sanguin A et qui ont eu un enfant de groupe sanguin AB.
Ouais.
Donc dans ces cas-là, ce qu'on soupçonne en général, c'est que le père n'est pas vraiment le père.
Il y a
donc,
le fricotage de la maman avec...
Ben ça, c'est le cas le plus classique, disons.
Ouais.
Il y a des tests qui ont été faits, des tests ADN, et qui confirmaient que le père n'était pas le père. Mais ça paraissait complètement exclu parce que l'enfant était né d'une fécondation in vitro.
Ouais.
Et puis, finalement, il y a des études approfondies qui ont été faites et qui ont montré qu'il y avait un lien de parenté très fort entre le père supposé.
Ah, bien là nous avons notre téléphone qui a coupé, alors j'espère qu'on va pouvoir retrouver notre invité assez rapidement, Frédéric Flamand, qui commençait à nous dévoiler donc cette histoire assez curieuse et passionnante. Vous en aviez entendu parler, vous, Marilène Patou-Matisse, ou pas du tout?
Ah non, pas du tout, là, c'est vraiment c'est complexe. Hein.
Voilà, c'est un cas extrêmement oui. rare de biologie, donc on va essayer de rappeler Frédéric Flamand dans un instant, si on arrive à le joindre à Lyon, où il se trouve, pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Vous allez voir, on va parler d'une histoire de quasiment de fantôme, en tout cas, de ce qui s'est passé avec l'origine donc de cette affaire. Est-ce qu'on peut me dire si on arrive à joindre Frédéric Flamand? On est en train de le joindre. On va peut-être attendre quelques minutes pour lui repasser un coup de fil. On marque une pause et on va faire la revue de presse tout de suite et puis on le reprendra juste après si on arrive, j'espère, à le joindre. Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, Une autre histoire de développement, quand on aura la conclusion de la première, développement étrange avec des policiers argentins qui ont fait une découverte étonnante eux aussi, un lézard à six queues. Rien à voir cependant avec une nouvelle espèce, ce malheureux reptile aurait subi plusieurs blessures sur toute la longueur de son appendice. Son système de régénération se serait alors activé, le dotant de nouvelles queues à l'emplacement des plaies. Difficile de savoir quel bénéfice ce spécimen pourrait en tirer, mais il est probable que sa nouvelle morphologie le désavantage dans ses déplacements, on pourrait s'en douter. Une nouvelle étude publiée hier dans la revue Sleep explique que durant les épisodes de somnambulisme, les personnes concernées ne ressentent pas la douleur et peuvent rester endormies malgré les blessures qu'elles s'infligent. Les scientifiques qui ont fait cette étude pensent qu'un état modifié de l'éveil affecte certains comportements, la conscience ou encore la perception de la douleur. Une découverte qui permettra probablement d'en savoir plus sur les troubles du sommeil. Et puis la NASA a publié le 1er novembre dernier des images grandioses du Soleil dans une vidéo en très haute définition. Ces images captées par la sonde Solar Dynamics Observatory montrent notre étoile sous tous les angles et permettent d'observer les éruptions solaires qui se déroulent à sa surface. La vidéo qui a nécessité 300 heures de travail est à découvrir sur le site de la Tête au Carré et sur notre page Facebook. Frédéric Flamand, on vous a retrouvé.
Oui, bon, voilà,
avec votre téléphone qui nous fait quelques blagues. Alors, on poursuit donc l'histoire. Comment est-ce qu'on a pu avoir des explications donc sur ce phénomène ?
Donc, la clé de l'énigme, finalement, c'est que les cellules germinales de cette personne-là, celle qu'elle a transmise à ses enfants, ne sont pas les mêmes que les autres cellules de son organisme. En fait, c'est une personne qui est une chimère, c'est-à-dire un assemblage entre des cellules qui ont des génomes différents. Et l'explication probable, c'est qu'au tout début du développement, il y avait des jumeaux et deux jumeaux qui ont fusionné en une seule personne. C'est comme si c'était des frères siamois, mais sur un seul organisme, disons.
Pourtant, ce père n'avait pas de jumeaux, hein, c'est ça ?
Non, il est né seul. Donc, on pense que c'est une grossesse multiple au départ, mais qu'un des deux jumeaux s'est développé et qu'il y a dans l'un des deux jumeaux quelques cellules qui sont venues de l'autre jumeau.
Donc, ce papa aurait absorbé certaines des cellules de son jumeau, hein, qui donc lui a disparu avant largement le développement et la naissance. Et donc, ce père est porteur de deux génomes, c'est ça ?
C'est ça. Les cellules de son jumeau qui sont transmises par la lignée germinale et ces cellules à lui qu'on peut identifier dans le sang ou dans la salive, par exemple.
Donc, vous appelez ça un chimérisme, effectivement, oui. Avec ce cas vraiment très troublant d'un homme qui porte deux codes génétiques en lui, c'est ça ?
C'est ça, oui. Alors, disons que c'est un cas tout à fait exceptionnel parce que la situation a permis de l'identifier, mais savoir si ces chimérismes sont si rares que ça c'est une question qui est ouverte, en fait.
Oui.
On n'est pas, c'est très très difficile à détecter en général.
Oui. Et justement, dans les cas de tests de paternité, il y a un certain nombre un pourcentage très important qui indique que le père n'est pas le père, justement. Je crois que c'est 25%, mais on ne sait pas encore à combien de pourcentage sont attribués ces cas de chimérisme, c'est ça ?
Ah ben, pour l'instant, on imagine que c'est exceptionnel, mais au fur et à mesure qu'on va faire de plus en plus de tests, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui. Bon, il y a des méthodes donc nouvelles maintenant qui permettent d'identifier la parenté de façon beaucoup plus stricte et qui donc permettent de trancher.
Comment est-ce qu'on pourrait s'apercevoir justement que cette personne possède un second code génétique ? Il faut analyser tout l'organisme pour le savoir ?
Disons, dans l'idéal, oui. En pratique, on peut facilement identifier l'ADN dans le sang, dans la salive, la peau. Bon, on ne va pas chercher plus tard, presque plus loin que ça, dans les cheveux également.
Oui.
Mais disons qu'on peut difficilement exclure toujours la présence de cellules étrangères dans un tissu plus à l'intérieur de l'organisme. Disons.
Et comment justement, Frédéric Flamand, on explique que ces cellules étrangères n'aient pas été éliminées par l'organisme ?
Alors, dans ces cas-là, le cas où il y a une fusion entre deux jumeaux, l'organisme se développe avant que son système immunitaire soit mis en place. Et donc, quand le système immunitaire apparaît, il y a une éducation du système immunitaire qui apprend à reconnaître les cellules de l'organisme, les cellules étrangères. Donc, elle reconnaît à ce moment-là les cellules du jumeau comme étant des cellules qui font partie de l'organisme. Et il n'y a pas de réaction, pas de rejet de ces cellules.
Et la proportion de ces cellules étrangères, elles sont importantes dans l'organisme, justement ?
Alors,
est-ce qu'elles se localisent dans certaines parties du corps ou pas ?
Alors c'est d'après ce qu'on sait chez les animaux, on peut faire des chimères de point de vue expérimental, c'est tout à fait déterminé par le hasard. Donc on peut trouver des cellules à peu près n'importe quel tissu et en proportion qui est très variable. Expérimentalement, chez la souris, on fait facilement des chimères qui ont jusqu'à 50% de chimérisme. Donc 50% de cellules qui viennent d'une personne, d'un individu, 50% d'un autre.
Ouais. Est-ce que du coup on peut considérer que les tests de paternité sont fiables ou pas alors ? Ça remet en question
ces
procédés.
c'est un des écueils, c'est peut-être pas le plus problématique, il y a aussi les contaminations de laboratoire, des choses comme ça. Mm-hmm. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'en France, ils sont réservés au domaine médical, mais aux États-Unis, comme ici, là, ils sont faits par des sociétés privées. Donc effectivement, laisser ces tests-là à des gens qui ne sont pas des médecins, c'est éventuellement se priver de ce type d'explications qui peuvent effectivement avoir des conséquences importantes. Oui.
Est-ce que ça peut causer des problèmes particuliers pour un organisme vivant, justement, de posséder deux codes génétiques comme ça? Et pour cet enfant qui est né, là, est-ce que ça peut poser un problème?
En général, non. En principe, non. Mais il y a comme le cas où si les deux jumeaux qui fusionnent, l'un est de sexe mâle, l'autre est de sexe femelle, à ce moment-là, on aura des problèmes de développement des gonades. Selon le degré de chimérisme, ça peut poser des problèmes, des problèmes de reproduction, oui.
Ah oui, il y a aussi ce cas de figure, effectivement, d'un chimérisme mâle-femelle.
Oui, alors à ce moment-là, on peut se retrouver des situations très particulières. Par exemple, un ovocyte qui a un chromosome Y, ce qui n'arrive jamais, normalement. Et ça, ça effectivement pose des problèmes de fertilité.
Vous l'analysez comme une simple anomalie génétique, au fond, ce cas très rare que vous venez de nous décrire?
Alors c'est plutôt une anomalie cellulaire, mais il y a aussi des anomalies génétiques de ce type-là. C'est-à-dire qu'on sait que globalement, d'une façon générale, c'est une simplification de penser qu'on a le même génome dans toutes nos cellules. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans l'organisme qui peuvent avoir des mutations que les autres n'ont pas. Dans ce cas-là, c'est carrément le génome entier qui est différent, mais finalement, sur le fond, ça veut dire que toutes nos cellules ne sont pas identiques. Oui.
Voilà, donc ce père qui est à la fois père et oncle de son enfant, oncle fantôme, hein, si on peut l'exprimer ainsi, et donc ce cas qui a été révélé il y a quelques jours et qui maintenant circule un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup surpris, et vos explications étaient très claires, Frédéric Flamand. Merci beaucoup d'être passé à la Une de la Science aujourd'hui. Allez, dans un instant, histoire de mammouth avec notre invitée Marilène Patoumatis.
Si j'y suis dans les rues de Chelsea, fuir les fantômes, l'insomnie qui sévissent à Paris, dans un hôtel de Nolita, j'ai posé mes valises, je ris, je chante, je danse, je bois et je dédramatise. Les joues pétillent comme du soda, l'inconnu m'électrise. Seul dans cette ville à la polka, diurne je cicatrise. Chien et loup.
L'échappée belle, Brigitte sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Histoire de mammouth, c'est donc un livre qui paraît chez Fayard. Je suis avec son auteur, la préhistorienne Marilène Patou-Mathis. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée au département préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez été d'ailleurs un des commissaires d'une exposition qui s'était déroulée en 2004 au Muséum, au temps des mammouths. Est-ce que les mammouths attirent autant de monde que les dinosaures? Il y a une certaine rivalité entre ces deux animaux.
Oui, mais en fin de compte, on arrive, ce sont tous les deux des grosses bêtes. Enfin, il y a des petits dinosaures. En fin de compte, ça marche très bien pour les deux. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Ça fait partie justement de ces animaux. C'est ça qui m'intéressait avec le mammouth. J'ai une longue histoire avec lui. Il est toujours présent. Et voilà. Et comme les dinosaures, parce que c'est un peu générique, les dinosaures, le mammouth, c'est un peu plus spécifique. Il est toujours présent dans l'imaginaire. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi ça parle autant à tout le monde.
Ouais. Et quels sont vos éléments de réponse alors? Parce que c'est vrai que ça fascine énormément. On le voit tout de suite. D'abord, tout le monde connaît le mammouth. Il y a une bonne connaissance quand même autour de cet animal. Mais pourquoi est-ce qu'il a une place aussi particulière dans les cultures populaires?
Je pense que déjà, justement, comme vous venez de le dire, il est dans les cultures populaires, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'il fait partie, il y avait déjà ces mythes très anciens. Vous savez, il y a des mythes qui remontent chez les peuples justement sibériens, mais qui remontent encore très loin dans leur histoire, même en Chine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'enracine dans le temps, qui a traversé les époques, parce qu'après, au moment des découvertes, notamment des navigateurs qui cherchaient le fameux passage du Nord-Est. Sont arrivés là dans les pays englacés et là, d'un seul coup, ils ont vu ces amas d'ossements, de défense. Donc là aussi, ça a été transmis par eux. Donc ça a traversé tout ça. Mais je crois aussi que c'est sa proximité avec l'éléphant, bien qu'il soit pas vraiment descendant, c'est dans cette commun, qui fait aussi, on a toujours eu dans nos civilisations, notamment, et même en Inde ou ailleurs, l'éléphant a quand même une place importante dans un petit peu cette cosmogonie autour des animaux. C'est un animal qui est quand même bien apprécié de la majorité, si j'ose dire, des gens. Il fait vraiment le patriarche, la valeur de stabilité, de puissance. Donc, je pense qu'il est porteur vraiment de qualité et de valeur. Et le mammouth, il a tout de suite été associé. Donc, à la fois, dans la littérature, il a été repris. On lui a justement collé, comme ça, à la peau les valeurs des éléphants.
Il a été confondu d'abord.
Il a été confondu d'abord. D'abord, au départ, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mammouth, il est dans plein de mythes différents. Le mammouth, on le retrouve chez les peuples sibériens et les peuples du nord de la Chine. On raconte des histoires qui tournent, on va résumer, c'est une espèce de grosse taupe.
C'est ça.
Qui creuse des galeries dans le sol et qui provoque, en creusant ça, il provoque des séismes. Oui. Donc très longtemps, on a assimilé ça. Et cette grosse taupe, quand elle sort à l'air libre, avec la lumière et tout, elle meurt. Ouais. Et c'est comme ça qu'on retrouve donc ces grosses taupes à la surface. Donc cette histoire a été véhiculée.
Ça dure très longtemps.
Et ça dure très longtemps.
Chose qui est collé à la peau
les marchands, bien sûr. Et il y a beaucoup de commerces, vous savez, on oublie, mais dès le Xe siècle, il y a des commerces entre, notamment avec les Arabes et tout, qui commercent avec la Chine et la Sibérie. Donc ils vont chercher la d'ivoire de mammouth. Et tout ça fait que ces mythes se transporte jusque en Chine. Et en plus, après, chez nous, alors là, d'un seul coup, c'est envahi aussi, et on retrouve les antiques, là, nos auteurs comme Pline, l'ancien. Et là, d'un seul coup, c'est le mythe des géants.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va trouver ces ossements, ou trouver sur des îles grecques des ossements d'éléphants antiques, un proche cousin, là, des mammouths. Ils vont voir ça, et la tête, vous savez, le crâne
d'un... Avec un seul orifice.
Voilà, parce que le crâne, voilà, les orbites, si vous voulez, ce qui sépare les deux orbites de l'éléphant, quand c'est sur l'os, sur le crâne, c'est très fragile, donc souvent ça se casse, et donc on se retrouve comme si c'était un cyclope. Donc voilà,
un seul œil. Voilà.
Un seul œil. Donc les naissances des cyclopes, des géants, et ça va être très très fort, ça va durer pendant tout jusqu'au XVIIIe siècle, ça va être très très puissant, ce mythe des géants. Et aussi, avec ces fameuses défenses énormes, là on a d'un seul coup le mythe de la licorne. Il y a eu aussi une confusion.
Entre les deux, les défenses et la corne de la licorne.
Bien sûr, et on a même vénéré dans des églises, on a vénéré certains saints, en tout cas des reliques de saints, alors que c'était des ossements de mammouth, parce que, bien entendu, la sainteté aussi, c'est avec ce côté géant, évidemment, c'est comme les héros, ils sont toujours de grande taille. Et les seins, c'est pareil. Et donc, on a vénéré les reliques, c'était des ossements de mammouth, ou bien des défenses de mammouth, voilà. Et donc, c'est ça qui est intéressant, ça a parcouru toute notre histoire. C'est vraiment dans les mythes, mais aussi dans notre histoire. Et après, bien entendu, comme c'est un animal fabuleux, ça a été repris à ce moment-là par tous les romans, par tous les magazines illustrés de la fin du 19e.
Et les expéditions scientifiques.
Et après, bien sûr.
Ont toujours lieu aujourd'hui, parce qu'on cherche toujours du mammouth bien conservé dans la glace. Hein. Et on en trouve.
Mais c'est-à-dire que ça aussi fait partie de l'enracinement de cet intérêt des mythes autour du mammouth, parce que, en fin de compte, très tôt, quand on a commencé à regarder au XVIIe, XVIIIe siècle, les expéditions scientifiques et ça, on commençait à s'intéresser aux phénomènes de la nature, aux objets de la nature. Et là, tout de suite, ça a interpellé, parce qu'on trouvait non seulement des os, mais aussi des cadavres. C'est ça qui était impressionnant. D'un seul coup, vous imaginez cet animal, voilà, avec ses poils et tout, il est comme vivant, comme s'il était mort hier. Et je pense que ça a ajouté. Alors là, en plus, avec toutes les légendes autour, qu'on peut manger sa viande, voilà, qui va être ressuscité, il y en a qui pensaient qu'ils étaient encore vivants, que c'était des cadavres, mais il y avait quelque part des mammouths vivants. Donc c'est plein de légendes, c'est plein de contes.
Et parmi tous ces mammouths, Marie-Hélène Patoumatis, c'est le laineux qui est probablement le plus populaire, c'est le dernier de la lignée au fond.
Oui, c'est le dernier de la lignée. C'est vraiment le laineux qui est très très fort. Là, je parle surtout pour tout ce qui est européen, eurasiatique, disons. Mm-hmm. Et c'est vrai que chez les en Amérique, donc il y a un cousin américain du laineux, qui est le mammouth de Colomb. Et c'est lui qui a été d'ailleurs contemporain des premiers hommes qui vivaient en Amérique, donc qu'on appelle la civilisation de Clovis, notamment. Et donc là, c'était plutôt ce cousin est aussi qui lui était un descendant du méridionaliste, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est enfin les mammouths, on pense souvent les nœuds qui est parti, donc par le détroit de Bering, ce que font aussi les hommes, parti en Amérique, mais avant lui, il y avait eu le mammouth méridional, comme on l'appelle, qui était parti, c'est lui qui avait donné le mammouth de Colomb. Et donc après, à un moment donné, se retrouve aux États-Unis à la fois le mammouth de Colomb et puis le mammouth laineux qui arrive. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que les études modernes montrent qu'il y a eu un retour de certains mammouths laineux d'Amérique qui sont retournés en Sibérie, et on a des analyses, notamment ADN, qui montrent que certains mammouths qu'on trouve, notamment des cadavres congelés, sont des mammouths de deuxième vague, c'est-à-dire qui sont revenus en Sibérie.
Et comment on l'explique ?
Alors, c'est-à-dire que là aussi, c'est un déplacement, vous savez, à un moment donné, l'immigration, le déplacement, quel prétexte, qu'est-ce qui a motivé la possibilité de passer, la recherche peut-être aussi de leur biotope très particulier qui est la steppe à mammouth. Donc tous ces déplacements se sont faits à différents épisodes, on peut dire. Et là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait ces deux mammouths, et aussi ne pas oublier le mastodonte qui est présent.
Absolument. Et dans l'histoire des mammouths, beaucoup de documentaires, évidemment, ont été tournés pour nous raconter leurs péripéties tout au long de l'histoire sur la terre des monstres disparus. Voici un extrait des mammouths et des hommes.
L'automne est venu. Les grandes gelées ont commencé. Les mammouths sont encore dans les plaines du Nord. L'évolution a fait de ces animaux de la famille de nos éléphants de véritables forteresses vivantes contre le froid. Sous la peau, une couche de graisse épaisse de 10 cm les isole des morsures du froid. Leurs oreilles et leurs queues sont toutes petites pour éliminer le risque de gelure. Et ils portent surtout leur légendaire manteau, constitué de deux couches d'un poil fourni. La pelisse extérieure pousse jusqu'à 1 mètre de long.
Marie-Hélène Patoumatis. Alors c'est vrai qu'on parle de ces animaux du froid, mais aussi dans l'histoire, quand on remonte vraiment aux origines, les premiers mammouths vivaient dans des savanes tropicales d'Afrique.
Bien sûr, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que les ancêtres, d'ailleurs c'est quand même les premiers proboscidiens aussi, c'est intéressant de voir que tout le monde pense à l'éléphant quand on dit
c'est
les ancêtres.
C'est porteur de trompes, c'est ça?
Les porteurs de trompes,
les proboscidiens, ouais.
Et puis les premiers proboscidiens, ceux de 55 millions d'années, par exemple 50 millions même, ils ressemblaient plus à un tapir qu'à un mammouth. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette évolution, ces transformations, et il y a des même si on parle des mammouths en général, sans parler du laineux, il y a eu des mammouths qui étaient sous des climats très tempérés.
C'est ça.
Donc voilà, au sud même, plus au sud que.
Donc c'est intéressant de remonter le fil de l'histoire, hein, pour voir la source d'abord, le berceau, ces animaux,
c'est ça,
et leur taille aussi, parce qu'effectivement, les tout premiers ressemblaient à des renards un petit peu.
Oui, faut voir, c'est des petites tailles, et puis ils grandissent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une adaptation. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose. C'est progressif. C'est-à-dire que on a toujours une vision, on a l'impression d'un seul coup, il y a plus un mammouth méridional, par exemple, qui va être remplacé par le mammouth des steppes. Il y a plus, Et ben non, c'est des choses progressives qui se passent. Et il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ces adaptations. Malgré ce qu'on peut penser qu'il va y avoir une extinction parce qu'il va pas y avoir de possibilité de temps et tout pour cette adaptation, il y a une adaptation, une transformation. Mais cette vision qui est très évolutionniste comme ça très lamarckien avec l'adaptation à l'environnement, mais est un peu remis aussi en cause parce que certains pensent qu'il y a des remplacements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être que c'est des mammouths venus plus notamment du nord de la Chine et ça, qui auraient peuplé, remplacé donc les anciens qui auraient pas cette évolution, cette adaptation. Parce que souvent on a dit, mais pourquoi le mammouth il s'est pas adapté à l'Holocène? Voilà, puisque on a des mammouths qui se sont adaptés, mais c'est pas si simple. Et peut-être qu'il y a plutôt eu des remplacements. En tout cas, c'est la thèse de certains paléontologues.
Ces porteurs de trompes, deux espèces aujourd'hui, hein. Éléphants d'Asie, éléphants d'Afrique. Oui. Au tout début, c'était beaucoup plus diversifié. Il y avait plus d'une centaine, 160 espèces différentes.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment il y a eu un règne, si j'ose dire, des proboscidiens. Ils étaient extrêmement diversifiés. Donc pendant une certaine période de leur histoire, et puis petit à petit, ça a beaucoup diminué jusqu'à être maintenant seulement avec. Avec deux genres, puisque le genre Mammothus a disparu. Oui. Donc c'est vraiment une réduction importante. Mais ça, c'est arrivé dans d'autres embranchements. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement lié au proboscidien. C'est là qu'on voit aussi qu'il y a des espèces qui disparaissent sans qu'il y ait une intervention de quoi que ce soit, notamment de l'homme, on en reparlera.
Notre mammouth laineux, il arrive quand dans le nord-est de la Sibérie, en particulier, Marie-Hélène Patoumatis. Parce que là, on parlait de millions d'années pour l'origine des proboscidiens, mais là, vraiment, le mammouth laineux, c'est une histoire assez récente pour le coup.
C'est une histoire récente. Alors là aussi, il y a des bas. Il est plutôt de l'Est. Actuellement, quand même, il y a une convergence vers justement les régions orientales de l'Europe, de la Sibérie par exemple. Certains disent le nord de la Chine, là aussi, toujours les Chinois. Et donc vers 600 000 ans, et après il y a une
600 000 ans,
voilà,
c'est ça,
une progression. Alors là aussi il y a le débat, tout le monde discute, vous savez, il y a beaucoup au niveau des dates, beaucoup de discussions. Mais et puis il y a donc un peuplement comme ça progressif de toute l'Europe jusqu'à même jusqu'en Angleterre par exemple. Et là c'est intéressant. Et puis bien sûr si on voit la Sibérie, le passage après en Amérique, voilà. Donc c'est vraiment une occupation importante, hein, et c'est vraiment une expansion assez importante de notre mammouth laineux. I wrote a letter, I wrote a letter, I wrote a, I wrote a, I wrote a, I wrote a, I wrote a letter to the Lord, begging him to send the cords that would make you stay by my side. He sent an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes a major in all its glory. Says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a long song, make it yours. Take all the pieces. There's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words. These are my lines. My prayer. Cause every inch of my skin still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times. I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. A major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry.
he said no, I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. They call the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words, these are my lines, this is my prayer. But these are my words, these are my lines, this is my prayer.
To the Lord avec Fada Freddy.
C'est aujourd'hui grande liesse au village oublié. On célèbre en effet la traditionnelle fête du mammouth sacré.
La population se met en marche vers les grottes sacrées au lieu dit le Bic, c'est-à-dire vers les grottes de Bic.
Et voici le mammouth sacré qui pousse son cri. Il est haut comme un building et large d'autant.
Tout le monde se prosterne. Le chef du village s'approche à l'heure du monstre. Il lui offre en holocauste un brontosaure farci, grillé au sarment du jeu de paume et truffé de ptérodactyles, qui sont, comme on le sait, des oiseaux de l'époque et qui ont l'envergure d'un quadrimoteur.
Toute une compagnie de ces oiseaux passe d'ailleurs dans le ciel noir actuellement. Et vous pouvez les entendre.
Le mammouth avale gloutonnement son brontosaure et se couche doucement sur un lit d'asphodel séché pour digérer. Il s'endort.
Voilà, c'est le grand délire. Hein. C'est le village oublié. La fête du mammouth sacré, façon Pierre Dac et Francis Blanche. Évidemment, Marilène Patou-Mathis, on célèbre le mammouth dans beaucoup de villes du monde. Est-ce qu'en Sibérie, ça donne lieu à des fêtes toujours d'actualité
que,
ou pas?
Oui, il est quand même célébré. Ce n'est pas sacré. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tout un rituel autour, parce qu'il y a des Sibériens qui pensent que c'est pas bon de ramasser le oui. mammouth. Il y en a qui se sont tenus à l'écart. Bon, maintenant, c'est un peu moins, parce qu'il y a beaucoup plus de commerce, c'est plus connu, oui. il y a plus de modernité aussi dans la connaissance. Mais pendant très longtemps, il fallait pas s'approcher oui. aussi.
Il y a eu des lois, d'ailleurs, en Russie, interdisant hein, ah ben qu'on, ça, c'était, qu'on vienne là, chercher les ossements.
Voilà, c'était surtout qu'il fallait signaler tout cadavre découvert et tout, pour oui. pas qu'on ait seulement le prélèvement de l'ivoire et puis qu'on laisse après, qu'on abîme le reste du cadavre.
Parce qu'on peut parler d'une ruée vers l'ivoire.
Ah bah complètement.
C'était du délire quand même en Sibérie. Ah oui, d'abord parce que les quantités étaient là.
C'était très important.
Et tout le monde convergeait pour aller chercher du mammouth et de l'ivoire. Et depuis très longtemps. Hein.
Depuis très longtemps. Il y a vraiment, c'est quand même avec le tsar Pierre le Grand qu'il y a une prise de conscience de, justement, il faut sauvegarder, on va essayer. Parce que lui, il croyait qu'il y avait peut-être des mammouths vivants. Hein, bon, voilà, il était obsédé pour aussi retrouver donc des cadavres entiers et pas seulement des défenses ou un os partiel.
C'était pour son cabinet de curiosité personnelle aussi.
Pour son cabinet de curiosité. Puis il a beaucoup quand même favorisé les expéditions. Et donc, puis après, bien sûr, Catherine II a suivi. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'il y avait aussi cette volonté d'avoir l'animal dans son complet, et pas seulement de l'ivoire. Parce que bien évidemment, c'était surtout ça qui était... Bon, c'était la traite des fourrures, les éblés et tout, puis aussi de l'ivoire de mammouth. Mais depuis le 10e siècle, hein, c'est quelque chose de très ancien.
Vous dites qu'en Europe, on préférait en France, d'ailleurs, l'ivoire d'éléphant à celle de mammouth.
Ben, certains disaient, enfin, quand on lit les documents, qu'il valait mieux faire des pipes dans l'ivoire d'éléphant que ou dans l'écume, mais je veux dire, que dans l'ivoire de mammouth, qui était plus fragile, parce que c'est les cônes, hein, l'ivoire, il pousse en faisant des cônes les uns, qui s'empilent les uns sur les autres, c'est comme ça, et donc ça fait des espèces de fragilité évidemment. Et donc voilà, puis il y en a un qui disait que c'était plutôt, ça jaunissait plus, enfin, bon, il y avait peut-être un tas de choses, mais ça a quand même été quelque chose, une richesse pour les peuples sibériens, c'est quand même, voilà. En plus, ils faisaient des objets, ils vendaient ces objets, l'artisanat. Donc, c'était quelque chose qui avait du poids aussi.
Les questions des auditeurs. Viron nous dit ceci. Le mammouth serait proche de l'éléphant d'Asie. Des chercheurs tentent génétiquement de reconstituer l'espèce. Est-ce que ça n'est pas une tâche insurmontable?
Alors, au niveau de l'ADN, il y a plein de controverses. Certains ont montré que c'était plutôt, l'ADN était plutôt proche de l'éléphant d'Asie. Certains, c'était plutôt proche de l'éléphant d'Afrique, et puis certains, positions un peu modérées, en disant non, en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre, c'est voilà, c'était très très proche, c'est-à-dire cette séparation entre les trois. Donc là il y a débat, mais c'est vrai que il y a une tendance maintenant à aller plutôt vers l'éléphant d'Asie, en tout cas pour ceux qui envisagent le clonage.
Alors c'est ça, c'est toujours le fantasme. Ça a commencé, vous dites, dans les années 70. Parce qu'évidemment, quand on a des animaux qui sont très bien conservés par la glace, certains pendant des dizaines de milliers d'années, dans quel état est l'ADN dans ces cas-là?
Ah bah des fois il est bien conservé, vous savez, et puis même des fois c'est tellement bien conservé au niveau même de l'anatomie de l'animal et tout que il peut saigner. Ça a beaucoup impressionné, hein, le sang qui coule tout parce qu'il y a on peut retrouver déjà faut trouver de l'ADN bien conservé, mais le problème c'est après, c'est-à-dire comment faire? Voilà, pour faire ce clonage
avec un
des
éléphant,
cellules.
On pourrait avec une avec femelle éléphant.
Avec une éléphante, c'est quand même ce qui est plutôt envisagé.
Ouais. Avec des risques pour elle.
Mais alors c'est ça, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une notion, il y a la recherche bien entendu, mais il y a aussi l'éthique. Et je pense qu'aussi dans la recherche, on ne peut pas faire fi de l'éthique. Et là, il y a deux choses. Il y a déjà bien sûr la mère porteuse, donc l'éléphante supposée. Et puis aussi, une fois qu'on peut, soit par cette méthode, soit par une méthode de clonage plus cellulaire, si on crée un mammouth, d'abord, il n'en faut pas qu'un.
Dans quel environnement il va vivre?
Voilà, et puis il n'en faut pas qu'un. Il faut quand même, c'est un animal grégaire, c'est un animal qui vit en société, donc il faut plusieurs mammouths. Déjà, vous voyez, faire un troupeau de mammouths, et ensuite le biotope. Il faut bien savoir que le mammouth, il est inféodé, même aux périodes pas trop froides, mais quand même un peu fraîches, à un biotope particulier qu'on appelle la steppe à mammouth. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'un paysage très ouvert, steppique, prairie très ouverte. Et puis, toujours auprès des cours d'eau, des arbres. Et ça, c'est un paysage qui a disparu, qui n'existe plus sur la planète.
Et puis, ça mange un mammouth.
Ça mange. Et donc, il faut ce biotope, 180 kilos d'herbe en moyenne par jour. Ouais. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas imaginer comme mon cher Burian, que j'aime beaucoup, vous savez, qui a fait des représentations de mammouth dans la neige, dans la toundra gelée. Non, il faut de l'herbe. Donc, ce biotope a disparu. Donc, cet animal, voilà où on va le mettre. Et puis, entre nous, quand même, je pense qu'actuellement, ça ne porte pas grand-chose au niveau scientifique. Est-ce que la recherche du génome, etc., oui, mais le clonage, ça ne porte pas vraiment scientifiquement quelque chose d'intéressant. Et je pense que peut-être que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Peut-être qu'actuellement, on est quand même en train de voir la disparition des plus grands mammifères terrestres, hein, qui s'appellent l'éléphant, n'est-ce pas? Donc peut-être essayons déjà de préserver les animaux qui sont là, que de vouloir ces espèces de fantasmes. Mais vous savez, on a dit ça pour le loup de Tasmanie, pour le dodo. Voilà, il y a des
pour Néandertal aussi.
Oh, mais parlez pas de ça, c'est terrible, c'est terrible. Mais voilà, non, mais là, c'est vrai. Non, mais il y en a qui vont jusque là, mais oui.
Mais oui.
C'est un mammouth comme un autre, c'est ça.
Voilà. Dans la catégorie ADN et fantasmes du clonage.
Mais il y en a qui voulaient faire un parc, hein, avec tous ces animaux. Voilà, c'est des fantasmes, c'est le syndrome de Jurassic Park.
Jacques dit ceci, l'extraction de l'ADN justement des tissus de mammouth, est-ce que ça n'est pas sans risque lors de prélèvements avec la présence de virus dormants?
Oui, je trouve que c'est une très bonne question parce
qu'on décongèle l'animal.
Exactement,
quand même.
On décongèle et puis voilà, mais en tout cas peut-être pas ce qu'on a pu voir là dans les glaces récemment, là, les découvertes très intéressantes,
les supervirus.
Qui fait un peu peur, les supervirus. N'empêche que c'est possible qu'il y ait des virus que notre organisme ne puisse pas supporter. Et on peut envisager peut-être que on a des légendes, alors c'est passé dans les légendes, mais on a des histoires comme ça où certains chasseurs ou éleveurs de rennes trouvaient un mammouth, prélevaient un peu de viande ou un peu de peau, je sais pas, et tombaient malades. Donc peut-être ça peut être aussi envisagé, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, ces légendes ont peut-être un fondement de réalité. Et peut-être c'est un virus, en tout cas, qui avec la température qui monte, évidemment, qui va reprendre de l'activité, si j'ose dire.
Mammouth et mammouto, et on en a beaucoup découvert.
Des mammouthos. Des mammouthos,
c'est ça,
bien.
Oui, mais moi aussi, j'ai trouvé ça sympathique.
Parce que je sais pas, on dit toujours les petits mammouths, pourquoi pas un mammouto, on dit bien l'éléphanto. Alors, voilà. Je me suis permis ce néologisme.
Découverte de chroma qui a été dégagée du permafrost en 2009.
Découvert par un chasseur de rennes dans la toundra sibérienne, chroma est temporairement confié à la France par les Russes pour être analysé. Le chef des opérations, c'est Bernard Buigue, un chasseur de mammouths qui a déjà retrouvé de nombreux spécimens. L'heure est venue d'examiner le petit mammouth sous toutes les coutures. Il est sorti de sa vitrine réfrigérée à moins 18 degrés pour être conduit dans un hôpital de Clermont-Ferrand où il passera un scanner.
Le précédent bébé mammouth, Lubac, est un magnifique spécimen par sa conservation. Et même au-delà de sa conservation, par son expression, on a l'impression qu'elle a été arrêtée dans un mouvement de vie. Et on s'était dit, ça va être extraordinaire, on va trouver un ADN exceptionnellement bien conservé et des tissus aussi très très bien conservés. Et en fait, à l'analyse, à l'étude, ça a été très décevant. Et à l'inverse, chroma, qui extérieurement comme ça est beaucoup moins photogénique, beaucoup moins intéressant, nous révèle là des choses extraordinaires.
Voilà, chroma, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de bébés et mammouths qui ont été découverts.
Le plus célèbre a été découvert en 1977, c'est Dima, le célèbre petit bébé Dima. Et une histoire très triste d'ailleurs, parce que ce petit mammouth, ce mammouto, était tombé dans une crevasse et il n'est pas mort tout de suite. Et donc, il a essayé de se sortir de cette fosse. Parce que on voit que tous ses ongles de ses doigts sont complètement usés et tout, il a mangé de la terre. Enfin, bon, c'est une histoire très très triste de mammouto. Et donc avec la découverte de ces cadavres congelés, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous donne bien sûr leur aspect extérieur, mais aussi on peut avoir un petit aperçu de leur vie.
Ouais. Donc tout l'environnement de l'animal, son anatomie, son alimentation,
bien sûr.
Tout ça, toutes ces découvertes de mammouth congelés. C'est ce que ça livre aux scientifiques.
Oui, voilà. Et puis on voit tous ces organes d'habitude qu'on n'a pas, nous archéologues, parce qu'on n'a que des os. Là, on a tout l'apparence et ça, c'est passionnant.
Oui.
Ça, c'est, on a appris plein de choses. On peut analyser leur, justement ce qu'ils mangeaient. On peut, on voit que les petits mammouthos mangeaient les fesses, les excréments, si vous voulez, les fesses de leur maman, notamment. Pour s'alimenter, ce que font d'ailleurs les éléphants. On a plein d'indications comme ça. Ça, c'est quand même des passionnant.
Allez, on fait un tour à Baïa, puis on se retrouve juste après, Marilyn Patou-Mathis.
S'il te plaît, je voudrais aller à Baïa. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Et je t'aime, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau. C'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Thank you.
Notre histoire commence auprès d'une harde, composée essentiellement de femelles. Comme dans tous les troupeaux de mammouths, les mâles s'isolent dès l'adolescence. Il y a 5 femelles adultes, un mâle de 10 ans et un petit mâle de 6 mois à peine. Il est né au printemps. Il s'apprête à vivre son tout premier hiver. Le vétéran du troupeau est la matriarche, qui a déjà vécu 40 hivers. Son expérience des chemins et des habitats est une garantie de survie pour la harde. Tous ces animaux, chacun à sa manière, sont bâtis pour résister au froid.
Voilà, Marilène Patou-Matisse, hein, tout l'équipement pour le mammouth laineux, pour résister au froid, avec même un petit clapet anal qui lui permet de ne pas prendre froid.
Exactement, et ça c'est quand même intéressant, et de voir aussi que les hommes préhistoriques l'ont vu, l'ont bien repéré et l'ont dessiné. Donc sur les parois des grottes. Ouais. Donc c'était quelque chose d'important.
Alors justement, les représentations picturales des mammouths dans certaines grottes françaises, nous dit Françoise, prouvent qu'ils étaient présents dans notre pays. À quelle époque ?
Oui, ils sont présents dans notre pays déjà, en bien Europe. Sûr, par ça. Et même d'ailleurs ses prédécesseurs. Hein, mmh. On a eu le méridional, on a eu le mammouth des steppes et puis le mammouth laineux. Donc on a aussi leurs ossements, il n'y a pas seulement les peintures. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cet animal a fortement intéressé nos ancêtres puisqu'il a figuré en grand nombre dans certaines grottes, comme la grotte de Rouffignac est merveilleuse.
Il y en a combien là de représenter
on appelle toujours la grande des 100 mammouths. Donc voilà. Hein. Et là, si vous êtes passionné par les mammouths, et vraiment cette grotte est formidable.
En Dordogne,
voilà, ce sont les Plassards qui depuis des générations s'occupent de cette grotte. Et vraiment, c'est une grotte absolument merveilleuse où on voit ce fameux là. On vient d'entendre un extrait où on parle de patriarche et de matriarche. Ben là, on voit ces fameux mammouths face à face. Et c'est absolument magnifique. Oui.
Alors justement, les relations entre les hommes et les mammouths, les Néandertaliens aussi ont côtoyé les mammouths de près avant les hommes modernes, le laineux déjà à
bien
l'époque.
Bien sûr, ils ont rencontré tout à fait le laineux. Alors, ils ne l'ont pas énormément chassé, mais ça, on comprend qu'avec leur armement rudimentaire, même les hommes, les premiers hommes modernes, les Aurignacéens, c'est quand même assez complexe.
Vous décrivez d'ailleurs toutes les techniques de chasse certaines sont quand même très élaborées.
Il faut que ça soit élaboré parce que c'est très difficile à chasser. Déjà, l'éléphant, vous savez, il faut s'ouvrir l'esprit en regardant un peu comment on chasse l'éléphant. Par exemple, je parle pour les chasses traditionnelles, évidemment, on s'entend. Et avec des sagaies et tout. Et en s'inspirant de ça, on regarde. Et nous, on regarde notre matériel en disant, mais dans l'armement, qu'est-ce qui pouvait fonctionner? Et on s'aperçoit qu'il y a quand même peu de choses. Donc, et le mammouth, c'est plus dur que l'éléphant encore. Parce que le mammouth, il a cette couche, cette cuirasse entre ses poils, son duvet, sa peau de pachyderme, sa peau dure, sa graisse, il faut traverser tout ça. Un projectile lancé même avec un propulseur, c'est-à-dire déjà avec une certaine force et tout, si vous l'envoyez dans son arrière-train, excusez-moi, mais il va rigoler le mammouth parce que ça lui fera rien. C'est piqûre de moustique parce que ça doit pénétrer tout ça. Ouais. Donc il faut vraiment il faut des stratégies et c'est pour ça qu'on s'aperçoit quand il y a des chasses qui sont mises en évidence au niveau de notre matériel archéologique, c'est parce qu'il y a des circonstances. Ouais. On est près des rivières, donc c'est probablement.
Est-ce qu'ils creusaient des fosses? Les pygmées, par exemple, vous décrivez des techniques de chasse par les pygmées.
Tantôt, ils faisaient des fosses. Mais vous savez, creuser une fosse dans un permafrost, avec un bâton à fuir, il faut quand même déjà être fort. Non, je crois pas.
Non, mais les
je
pygmées,
crois que,
comment ils
faisaient? Eux, ils peuvent, parce que là, avec leur bâton à fuir, ils le font facilement, et puis c'est réutilisé. Mais moi, je pense que là, c'est une vision de l'esprit, parce que dans certaines régions, notamment, où il y a beaucoup de mammouths, avec les hommes, notamment en Europe orientale, en Ukraine, en Russie, etc. Il y a du permafrost. Alors creuser, c'est pas raisonnable. Non, c'est plutôt utilisation de pêche naturelle, les bords de marécage, au moment du dégel, vous savez, c'est un peu fragile. Et donc là, parce qu'une fois qu'il tombe, il dégage, si j'ose dire, son abdomen, où là, il n'y a pas toutes ces jarres, les gros poils et tout. Et là, on peut vraiment lui mettre des pieux.
Est-ce que l'homme de l'époque s'est fabriqué des vêtements en laine de mammouth? Parce que c'est quand même une source de matière première extraordinaire, alimentaire et non alimentaire, d'ailleurs. On a utilisé le mammouth pour tout un tas de choses. Mmh. Hein.
Le problème, c'est que la peau de mammouth, comme la peau d'éléphant, c'est extrêmement dur à travailler. Et qu'elle, dès qu'elle est enlevée, ça devient complètement rigide, comme du carton. Alors ça, c'est très bien pour des boucliers ou pour des tam-tams, mais ça ne peut pas être utilisé pour se vêtir, pour un tapis de sol, des choses comme ça.
Pourtant, vous dites tout est bon dans le mammouth.
Tout est bon, mais on le récupère, mais bien sûr, mais pas forcément pour se vêtir. C'est bien aussi d'avoir au sol, vous voyez, un tapis de sol.
C'est chouette,
très bien, voilà. Ouais, c'est chic, et donc, ça isole bien du sol. Donc, non, c'est vrai que tout est utilisé dans le mammouth. C'est ça qui est extraordinaire.
Les ossements, donc l'ivoire, évidemment, bien les sûr, poils, les tout. Tendons, on en les fait tendons, des bijoux, on se loge, on fait des cabanes.
Bien sûr. Et là justement, dans mon livre, j'ai pu mettre quelques illustrations, quelques photos. Et il y a un très beau bracelet. Quand on voit la finesse de ce bracelet, le décor avec des zigzags, des grecs, c'est très très beau et ça c'est très fin et c'est dans l'ivoire de mammouth, c'est magnifique.
Les fameuses Vénus qu'on voit au musée de l'Homme là aujourd'hui, qui sont aussi célèbres, qui sont des pièces de sculpture extraordinaires.
Là, la Vénus de Lespugue au musée de l'Homme qu'on vient de réouvrir. Et là, c'est fait dans ça. Donc le mammouth, il est présent partout. Le mammouth, c'est un animal extraordinaire parce qu'il est dans la sphère domestique, c'est-à-dire qu'il sert pour manger, pour se vêtir et tout, mais il est aussi dans la sphère symbolique, dans les parures, aussi les objets de parure, dans les Vénus, dans les représentations pariétales. Donc il est vraiment omniprésent, il est dans les sépultures, on met des morceaux d'ivoire avec le défunt. C'est vraiment un animal qui était très très important, à mon avis, à cette époque-là et dans la vie de ces hommes.
D'où vient ce nom de mammouth, Marilène Patoumatis, demande de François.
Alors, là, il y a vraiment un débat, c'est-à-dire qu'il y a une discussion sur le fait que ça serait mammouth, c'est-à-dire en fin de compte, on revient à la taupe. Taupe terrestre. On a même eu des associations avec notamment la baleine de terre. Hein, c'est ce que disait le roi Gouran, par exemple, en parlant pour le mammouth, un peu ce qu'on dit la baleine de terre, ce qui était pour les Inuits la baleine. Donc la baleine de terre. Donc et c'est un mot qu'on n'a pas réussi. C'est pour ça que je fais un petit passage dans mon ouvrage, mais d'une complexité infernale.
Il y a beaucoup de cheminement. Hein.
Parce qu'il y a beaucoup de cheminement. On ne sait pas. Il y a même qu'on dit que c'était peut-être finlandais, il y en a qui ont dit... Enfin, on a un petit peu toutes les origines et c'est extrêmement compliqué. Donc, on reprend toujours, on dit mammouth utilisé par Vidsen, donc au XVIIIe siècle.
On parlait il y a deux jours dans cette émission d'une publication sur la disparition des mammouths, une proposition qui indique qu'ils seraient morts en raison de l'ostéoporose. Ça vous paraît intéressant comme possibilité ?
Moi, ça me paraît intéressant. Vous savez, en ce moment, on a une tendance à voir que l'homme a tout exterminé. L'homme est un exterminateur, donc c'est lui qui a tué tous les mégafaunes et qui a tué tous les mammouths. Là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des espèces, c'est vrai. Et en ce moment, c'est vrai que l'homme est un exterminateur. Il va vite, quoi. Mais à cette époque-là, non. Il y a des espèces qui disparaissent justement par un problème de disparition de leur environnement, leur biotope. Le biotope de la steppe à mammouth disparaît parce qu'il y a un réchauffement important. Et cette réduction de
à partir de quand ça s'amorce ?
Bah, ça s'amorce en fin de compte. Il y a des 15-20 000, il y en a qui disent que déjà, il y a un problème pour les mammouths, là, je t'entends. C'est-à-dire que déjà, là, il y a le steppe. Et donc, ça va se réduire. Donc, la diversité des troupeaux vont se réduire. Donc, la diversité génétique aussi va s'affaiblir. Et donc, les mammouths vont commencer à être un peu malades, Et que ça ne m'étonne pas qu'il y ait.
Donc, c'est multifactoriel, au fond. Il y a un réchauffement climatique qui a produit au fond un affaiblissement de l'animal en créant pourquoi pas de l'ostéoporose.
Voilà, l'ostéoporose ou d'autres choses. Peut-être ils étaient des sensibles à certains même virus, nouveaux virus. Mais en tout cas, je pense que là, il faut faire attention et ne pas dire que c'est l'homme qui a exterminé les mammouths. Parce que peut-être ça a été localement vrai à certains endroits, mais pas d'extinction des mammouths. Puisqu'on a des mammouths qui vont disparaître, les derniers mammouths sur les îles Wrangler, mais aussi Saint-Paul en Alaska. Ouais. Sur l'île Saint-Paul, le mammouth disparaît vers 3700 et il n'y a pas d'homme.
Voilà. Donc, pour cette histoire. Histoire de mammouth au pluriel, parce qu'elles sont très nombreuses. Voilà. Il y a beaucoup de très belles histoires vraies et beaucoup de légendes et de mythes. Marilène Patoumatis, c'est chez Fayard dans la collection Histoire. Merci beaucoup d'être venue nous en parler.
Merci à vous.